est totalement seule. L'âme est sans vie. L'âme est une pulsation. L'âme est un rythme maintenu dans sa perfection par une conscience atomique. Et c'est de cette conscience atomique que grandit petit à petit la conscience de l'âme au cours de l'évolution. Et si cette conscience atomique, à un moment donné, est retardée par le rejet constant de l'ego et de la personnalité, l'atome, le noyau central de cette âme, perd sa couleur, perd sa vibration, perd sa pulsation, éventuellement, lorsque l'âme n'a plus de pulsation, elle est totalement affaiblie. J'emploie des termes humains, j'emploie des termes graphiques, je n'ai pas de choix. Et lorsque l'âme est totalement affaiblie, à ce moment-là, elle est absorbée et attirée par des forces gravitaires dans le cosmos qui sont maintenues en vie par des trous d'énergie. Et l'âme est attirée dans ces trous d'énergie et éventuellement elle est détruite parce que la composition de ces trous d'énergie est faite de matière anti-esprit. Et lorsque l'âme rentre dans ces dimensions anti-spirituelles, elle n'a plus de porte de sortie. D'ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant concernant les trous de l'esprit. Les trous de l'esprit sont des espaces extrêmement bruyants dans lesquels le son cosmique est totalement cacophone. Et c'est la cacophonie de ces sons cosmiques dans ces trous de l'esprit qui crée dans le cosmos des tensions entre l'esprit de la lumière et l'esprit des ténèbres. Et un homme qui a le pouvoir d'aller dans ces champs de force peut entendre un genre de hum, un hum. Et le hum que vous parlez, dont vous parlez dans les sciences ésotériques, le mantra, ce hum est la tension qui existe entre ces deux forces. Et lorsque l'homme prononce le hum, il renforcit l'énergie qui permet à l'esprit de la lumière de retenir la progression et la puissance des trous de l'esprit. Les trous de l'esprit sont la substance même du temps du mal. Et c'est dans ces trous de l'esprit que se situe le mal. Alors les âmes sont attirées et attirées et éventuellement elles ne peuvent plus sortir de ces trous de l'esprit. On demande souvent, qu'est-ce que vous voulez dire par le mal? Qu'est-ce que c'est le mal? Je n'aime pas le mot mal. Je n'aime pas les mots. Je dois me servir des mots pour expliquer ce que je sais. Mais le mal, sur le plan cosmique, est une dimension temporelle de certaines forces qui sont tellement puissantes qu'elles créent un vide énorme, un trou noir. Et c'est ce trou noir, de ce trou noir, que vient ce qu'on appelle, nous les hommes, le mal. Alors l'âme doit monter en évolution et être suffisamment forte en vibration pour aller directement à la lumière, sans question, sans inquiétude, sans vaciller. Mais les âmes n'ont pas tous cette puissance. Alors, entre cette polarité, les forces de la lumière et ce trou de l'esprit, les âmes montent et elles exécutent leur chemin d'évolution. Et de temps à autre, elles ont tendance à aller vers là. Et ensuite, elles se raccordent. Et ensuite, elles vont vers là. Et ensuite, elles se raccordent. Et éventuellement, si elles ont la chance de prendre une grande expérience, elles vont réellement vers là. Et c'est ça le but de l'évolution.
Qui crée l'âme?
L'âme n'est pas créée. Elle est instituée atomiquement par la catégorisation de l'intelligence infinie des alephes en perturbation. Lorsque les alephes sont en perturbation, il y a création de l'âme. L'âme n'a jamais été créée dans le passif total de l'intelligence planificatrice de l'universel. L'âme, elle est créée par la perturbation des alephes. Le géant se lève et tout tremble, l'âme l'est créée. Nous avons tendance à considérer l'âme comme une capacité ou une valeur personnelle. Ce n'est pas comme ça. L'âme est simplement une pulsation, une vibration, une énergie qui fait partie de l'homme et qui actualise dans les principes humains les différents niveaux de force nécessaires à l'évolution. L'âme ne nous appartient pas.
Vous parliez de pulsation, tout ça, c'est comme le cœur de l'atome, l'âme.
Très juste. L'âme, c'est le cœur de l'atome, mais l'âme se sert de l'atome pour structurer sa vibration, pour lui permettre de maintenir son taux, son rythme pendant des éternités.
Donc l'âme a besoin de l'atome et de la matière.
L'âme a besoin de l'atome et de la matière, c'est pour ça que l'âme est descendue dans la matière. Parce que le besoin qu'a l'âme de l'atome et de la matière est un besoin qui est à la fois éternel, mais à la fois temporel. Et toute distribution dans le cosmos d'une vibration qui est susceptible d'alléger le fardeau de l'âme doit servir à exécuter sur un plan quelconque des plans de divination. Et ces plans de divination font partie des plans de l'Aleph, auquel appartient l'esprit, parce que l'esprit est l'agent, l'outil unificateur de cette planification. L'esprit organise, manifeste, mais c'est l'Aleph qui met en potentiel d'exécution ses desseins.
Et quel est le conseil à donner aux âmes pour qu'elles retournent vers la lumière?
Quel est quoi?
Quel est le conseil à donner aux âmes pour qu'elles retournent à la lumière?
On ne peut pas conseiller une âme. On peut conseiller un ego, mais on ne peut pas conseiller une âme.
Alors que doit faire l'âme pour retourner à la lumière?
Elle doit être dans un ego ou elle doit exécuter l'évolution dans une personnalité, dans un corps qui est de plus en plus en relation avec des données informatrices qui servent à détruire en lui la domination. C'est pourquoi l'éducation est essentielle, c'est pourquoi la bonne éducation est essentielle, c'est pourquoi l'éducation qui est en dehors de la forme est essentielle, parce qu'à ce moment-là, l'âme peut aller retourner beaucoup plus rapidement vers la lumière. Mais si l'âme n'est pas donnée la chance à cause de la nature de la civilisation, à ce moment-là, c'est très difficile. Imaginez-vous un âme qui s'incarne ou qui active une personnalité et un ego en Afrique, dans des pays sous-développés. Ces âmes ont beaucoup de difficultés de retourner vers la lumière, mais avec le temps, elles retourneront. Mais des conditions seront essentielles. Peut-être qu'après la mort de ce corps matériel, il y aura incarnation dans un autre corps quelque part d'autre dans le cosmos, où les conditions d'évolution seront plus saines, seront plus stables. C'est pour ça que l'éducation, l'information, la connaissance doivent être de plus en plus objectives. Et lorsqu'un homme est arrivé à pouvoir se fier à lui-même, à ce moment-là, il est en voie d'évolution très rapide, parce qu'il se fie à lui-même. Il n'est plus susceptible d'être contaminé par les opinions extérieures. Il se fie à lui-même, et lui-même, c'est la connexion. C'est pour ça que viendra un jour où les hommes seront obligés de vivre leur vie d'une façon totalement autonome et de renforcer en eux cette autonomie pour qu'ils ne puissent pas être troublés dans leur évolution, ni en relation avec de l'information qui provient du monde matériel ou de l'information qui provient du monde des esprits. L'exécution sur le plan matériel de l'intelligence cosmique, ça c'est un autre nom, le mot intelligence cosmique. Tous les mots sont...
Je pense demain qu'on n'en finirait pas d'en parler. On va être obligé de faire un point final à cette première partie de la soirée. J'espère, mesdames, messieurs, que vous avez été rassasiés de cette grande quantité d'informations, de connaissances. Après la pause de 15 minutes, ce sera votre tour de poser des questions. Dans sa voix, il émet 7 sons différents. Alors, c'est au numéro de téléphone 465-4525. Je garde le papier ici. Si quelqu'un a des détails au niveau d'un chat persan, vous nous le direz. C'est un chat persan. On commence très, très sérieux, M. Bernard, très profond. Le film le plus profond que j'ai jamais vu, c'est 20 000 lieues sous les mers.
commence à faire de la cabine, Richard. C'est bon, ça, là.
OK. C'est bon, oui, c'est bon.
Ça me rappelle la fois que j'en ai manqué une bonne. Il y avait eu un accident d'automobile en s'en venant des Laurentides. Une crevaison. Tu te souviens de ça? C'était ici, ça. Tu n'avais pas mis des pneus Bernard sur ton automobile? Non, c'est quand je vois la profondeur des questions qui s'en viennent, je me dis, on repart. Pour les gens qui étaient ici pour la première fois écouter Bernard, ça vous a plu, ce qui s'est passé tantôt? En général, oui. Je pense que ça suit bien la nouvelle ligne de pensée que Bernard nous a transmise au mois de janvier en disant, en 81, fini de tourner en rond. C'était pas mal, encore une fois, très complet. Alors ici, puis ça m'a été demandé tantôt dans l'intermission, quel programme, étude, activité ou recherche l'homme doit-il entreprendre pour aller au plus court vers la lumière? Deux gallons de gasoline sous le dos, avec une bonne allumette.
L'homme a trois phases d'évolution essentielles. Il y en a une, il y a l'évolution sur le plan matériel, il y a l'évolution sur le plan spirituel et il y a l'évolution vers la conscience pure. Dans les deux premiers cas, au niveau de l'évolution spirituelle puis au niveau de l'évolution matérielle, l'ego est impliqué. Alors, même si les gens sont en évolution spirituelle ou en évolution vers une haute spiritualité, l'ego est toujours impliqué. Et là où il y a de l'ego, il y a de l'orgueil. Soit de l'orgueil psychologique ou de l'orgueil spirituel. Il y a de l'orgueil. La lumière est anti-ego. Dans ce sens que la lumière doit détruire les formes qui constituent la base psychologique de l'ego sur le plan matériel ou la base psychologique de l'ego sur le plan spirituel. Alors, si l'ego veut le désir de l'ego d'évoluer vers la lumière, ça fait partie de son désir égoïque. C'est un désir spirituel. Alors, l'ego a différentes expériences qui l'amènent à vivre différentes expériences spirituelles. Et si l'ego, à un certain moment de sa vie, est vibratoirement apte à recevoir l'énergie, à ce moment-là, l'énergie se manifeste. Mais ce n'est pas l'ego qui peut aller chercher la lumière. L'ego peut se spiritualiser, préparer le terrain, faire l'expérience diverses d'une vie spirituelle. Mais lorsque le contact avec la lumière se fait, toutes les formes qui ont constitué l'expérience de l'ego, son ignorance, à tous les niveaux, ces formes-là doivent être détruites. Et elles sont détruites par le contact entre l'intelligence supramentale et l'intelligence inférieure de l'ego. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, dans le contact avec le supramental, il n'y a pas d'effort à faire. Quand c'est le temps, ça se fait.
Est-ce que la lumière détruit l'âme?
Non. La lumière supporte l'âme constamment. L'âme se détruit par elle-même lorsqu'elle doit être détruite.
Peut-on aspirer à une certaine réalisation dans l'espace d'une seule vie?
Pardon?
Peut-on espérer évoluer dans l'espace d'une seule vie?
Oui, à l'intérieur d'une vie, surtout dans les temps qui viennent, parce qu'il y a énormément d'accélération au niveau de l'évolution, l'homme a la chance, l'opportunité de passer du stage du mental inférieur au stage du mental supérieur, ou autrement dit, au stage de la conscience pure. Et la condition qui va avec cette accélération de la conscientisation dans l'homme est directement liée à l'ajustement vibratoire du corps mental, du corps émotionnel, en relation avec l'énergie du supramental. C'est pour ça que dans l'exécution du plan de vie d'une personne, si une personne doit entrer dans la conscience universelle, dans la conscience supramentale, cette conscientisation se fait petit à petit, parce que les hommes n'auraient pas la constitution psychique suffisamment forte pour subir le choc vibratoire qui se produit lorsque se fait la connexion entre le supramental et l'ego, ou le plan mental de l'ego, le plan mental inférieur de l'ego. Alors l'homme peut désirer se spiritualiser, c'est déjà une attitude positive, c'est déjà un courant en lui qui l'élève, mais à un certain moment, il sera entrepris vibratoirement par l'énergie du supramental, et c'est à ce moment-là qu'il verra, qu'il comprendra exactement ce que veut dire la pénétration du supramental en lui. Parce que tant qu'on n'a pas été en contact avec les forces du supramental, on s'imagine que la pénétration du supramental en soi s'exécute d'une façon plaisante, spirituelle, perdue sur les nuages. Je vous assure que c'est le contraire. D'ailleurs, vous pouvez en parler aux gens qui en connaissent l'expérience. La pénétration du supramental crée des chocs dans l'ego au niveau du mental et du corps émotionnel, ou même au niveau du corps physique, ça dépend de la situation. Et cette pénétration-là ne se fait pas sous le contrôle de l'ego. Là où l'ego doit lâcher, c'est là où le supramental commence. Mais l'ego doit lâcher. Tant qu'il ne lâche pas, le supramental ne peut pas pénétrer, à moins qu'il fasse une connexion qui est totalement à l'intérieur de ses propres lois. Puis à ce moment-là, l'ego est forcé de lâcher et il y a fusion et il doit subir le changement vibratoire pendant le temps qui lui sont assignés. L'évolution vers le supramental, l'évolution, la pénétration de la lumière dans l'homme, ce n'est pas une évolution spirituelle. C'est la termination, c'est la fin de l'évolution spirituelle.
Ce que vous venez de nous transmettre, est-ce de la connaissance ou du savoir?
Ça fait partie de ce que vous appelez le savoir. La manifestation devient pour l'homme de la connaissance. La connaissance ne sert jamais à celui qui sait, parce qu'il est un canal. Le robinet dans lequel l'eau passe ne questionne pas l'eau qui passe. Il sert simplement à faire passer l'eau. C'est la même chose. Quand on vient de savoir, on n'est jamais intéressé à la connaissance.
Il y a deux questions ici, moyennement personnelles. Vous vous adressez aux hommes en disant « vous ». Expliquez votre condition, origine ou réalisation qui vous différencie, s'il y en a.
Mais différencie de quoi?
Des autres. Quand vous vous adressez aux gens, vous dites « vous, les humains de la Terre, etc. »
Quand je parle d'une façon objective et que j'emploie le « vous », c'est pour faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre la conscience mentale et la conscience supramentale. Dans la conscience supramentale, le « je » n'est pas impliqué. Et si le « je » n'est pas impliqué, la vertu du « je » ne s'applique pas en relation avec les hommes. Et si le « je » veut parler à des hommes, dans le cadre de la formation de l'intelligence supramentale pour diriger vers l'intellect humain sur le plan mental inférieur de l'information, le mouvement supramental se fait toujours en relation avec une vibration qui doit séparer les hommes qui sont conditionnés par les forces de la planète et les hommes qui ne sont pas conditionnés par rien. Dans ce processus-là où il y a une différenciation qui s'exécute, qui se fait valoir à l'intérieur du sein de la conscience supramentale, c'est pour faire connaître qu'il y a sur le plan matériel, sur la Terre, deux types d'hommes, des hommes qui fonctionnent en horizontal et des hommes qui fonctionnent en vertical. Et les hommes qui fonctionnent en vertical ne sont pas forcés de vivre leur vie dans le cadre des lois de l'homme, telles qu'établies par la conscience égoïque de l'homme.
Est-ce que l'âme a le pouvoir de laisser l'homme avant sa mort? Est-ce que l'âme a le pouvoir de laisser l'homme avant sa mort?
C'est une question qui est drôlement posée. S'il y a dans l'homme, dans l'expérience de l'homme, une extériorisation quelconque, en dehors de l'enveloppe matérielle, cette extériorisation n'est pas exécutée, vécue au niveau de l'âme. Elle est vécue soit au niveau du corps astral ou soit au niveau du corps éthérique. Et si elle est vécue au niveau du corps éthérique, à ce moment-là, l'enveloppe éthérique contient l'énergie de l'âme et l'enveloppe éthérique permet de toujours maintenir une relation vitale avec le corps matériel. De sorte que ce n'est pas l'âme qui se substitue dans l'expérience, mais un des principes de l'homme. L'âme doit toujours être là pour que les principes soient manifestés. Les gens parlent souvent du voyage de l'âme, le voyage astral comme étant le voyage de l'âme. Le voyage astral, ce n'est pas le voyage de l'âme. C'est un déplacement astral, c'est un déplacement de la conscience astrale de l'homme dans le champ d'énergie symbolique de la vision de l'âme. On appelle ça le voyage de l'âme parce que dans cette expérience-là, l'homme atteint des sommets de haute spiritualité. Mais les sommets, ces sommets de haute spiritualité qui font partie de la conscience astrale de l'homme sont quand même des sommets de haute vision spirituelle. Et tous les sommets de haute vision spirituelle correspondent à des images qui servent à donner à l'homme l'intelligence de sa spiritualité, mais non l'intelligence cosmique.
Ne plus avoir de désir.
Ne plus avoir de désir, c'est un désir.
Croyez-vous qu'il y a présentement sur la planète une âme réalisée qui vienne essentiellement pour aider les autres êtres de la matière à découvrir cet état sans émotion qui est la lumière, cet être qui viendrait pour accélérer la réalisation que doit faire tout être humain afin de retourner à sa propre source? Croyez-vous qu'il existe actuellement cet être sur la planète?
Faut lire vos noms.
Sportive. Ben, star quelque part. En continuant dans la ligne de pensée sur l'âme, que sont les âmes jumelles et ont-elles une part à jouer dans leur évolution respective?
J'ai déjà expliqué que le concept de l'âme jumelle, le concept de l'âme sœur, c'était un concept humain qui sert à sécuriser l'homme dans la spiritualité de son union avec des hommes sur le plan matériel. Le concept de l'âme jumelle, c'est un concept qui favorise l'union spirituelle entre deux êtres, mais c'est une forme. Les âmes en évolution, les âmes perfectionnées, les âmes très évoluées sont totalement autonomes, indépendantes, et il n'y a aucune expression dans leur vie du sentiment d'être jumeaux. Tant qu'on a une relation avec un être qui fait notre affaire. Là, c'est notre âme jumelle. Moi, c'est sûr que ça va mal, là, c'est plus notre âme jumelle. Il y a toujours deux bosses sur le dos d'un chameau. Une bosse, c'est le sentiment, l'autre, c'est l'intelligence. Puis le chameau, c'est l'ignorance.
La loi de la compensation existe-t-elle ou ce n'est encore qu'une illusion? Pour accepter ou assumer avec espoir certains moments frustrants dans notre vie terrestre?
La loi de compensation, elle existe dans ce sens qu'elle définit les rapports probables dans l'exécution du plan de vie d'une personne, toujours selon sa volonté. Plus la volonté d'une personne est grande, plus la loi de compensation diminue, parce que plus la loi d'exécution prend place dans sa vie. Et si vous êtes obligé de vivre votre vie sous la loi de compensation, à ce moment-là, vous êtes obligé de subir votre vie. Si vous êtes en dehors de la loi de compensation et que vous vivez sous la loi d'exécution, à ce moment-là, vous vous servez de votre intelligence créative et de votre volonté pour tracer le chemin de votre destinée et arriver et aller là où vous voulez. À ce moment-là, dans votre vie, il n'y a plus de compensation. Il y a simplement de la créativité exécutive.
Bernard, est-ce que c'est nécessaire de protéger son aura? Quel est le moyen de protéger son aura? Est-ce que la sexualité empêche l'individu d'évoluer?
Bien. Ça, c'est des formes spirituelles, du mysticisme. L'aura qui peut vous en pas. Les gens s'occupent, s'inquiètent. C'est ça, être homme. Être homme, c'est s'inquiéter. On s'inquiète de l'aura, on s'inquiète de notre pipi, on s'inquiète de tout. Puis quand on s'inquiète, ben, on crée des forces. Il y en a un qui vous dit la sexualité, c'est pas bon, ça retarde ton évolution, fait que là, tu deviens mystique. Ensuite, t'en rencontres un autre qui dit être mystique, c'est pas bon, parce que tu retardes ton évolution supramentale. Fait que là, tu descends de la montagne. Tu t'arrêtes jamais. Tu fais tout le monde. L'homme doit devenir autonome dans sa sagesse. Il doit pouvoir exécuter son savoir. Être autonome dans sa sagesse, c'est se fier à soi-même le plus possible, jusqu'au moment où on en arrive par nos erreurs à être sûr, puis jusqu'on en arrive plus tard par notre souffrance à être sûr d'être sûr. Puis quand vous êtes sûr d'être sûr, tu t'occupes plus de ta sagesse, puis tu t'occupes plus de ta sexualité, puis tu t'occupes plus de ton pipi, puis ce que les autres disent. Tu vis ta vie comme tu la vis. Tu bois ton lait comme ça te plaît.
Pouvez-vous nous parler de l'art et des artistes? Qu'est-ce que la musique? D'où vient-elle? Quelles sont les influences transmises par la musique? Ça, c'est le son. Puis la peinture, ben, c'est la lumière.
La musique, c'est la fabrication sur le plan humain de sonorités qui plaisent au corps émotionnel et astral de l'homme ou qui lui déplaisent. Si ça lui plaît, ça le relaxe. Si ça le déplaît, ça le rend malade. Les gens sont, dans le cadre de la musique, incapables, à cause de la forme très puissante de la culture, de dire « ça me plaît, ça me plaît pas ». Parce que tout le monde dit que ça plaît, ben, faut que ça te pèse un petit peu. Si tout le monde dit que Picasso, c'est bon, ben, faut que ça soit bon, sans ça, t'es un anarchiste. Si tout le monde dit ça c'est bon, il faut que ça soit bon, sans ça c'est une énergie. Fait que les gens perdent leur individualité, ils se font cultiver. Alors la musique telle qu'elle est vécue par les gens, elle est vécue culturellement, puis souvent ça nous rend malade. Mais la musique c'est très beau, c'est très relaxant, c'est très bon pour l'esprit de l'homme, parce que ça astralise ses sentiments, puis ça sentimentalise son astral. Seulement plus l'homme devient conscient, plus la musique doit être choisie par vibration au lieu d'être choisie par catégorie psychologique. Au niveau des arts, c'est la même chose, seulement la vibration est différente. Ce que je reproche aux arts puis aux artistes, c'est de faire trop des arts et des artistes. Parce qu'il y a des artistes et des tartistes. Il y a plus de tartistes que d'artistes. Puis les artistes, les vrais artistes, les grands artistes qui contribuent à donner à l'homme une vision interne et personnelle de leur sonorité ou de leur lumière, s'ils sont de grands artistes, sont très communicatifs et expriment leur art pour leur plaisir à eux. Et ce plaisir à eux devient une expression extérieure pour l'humanité. Mais il y a plus de tartistes aujourd'hui que d'artistes. Puis il faut choisir entre les tartes et les gâteaux. Parce que sans ça, on a des indigestions, avec des décibels de 114, qui nous pètent les oreilles, puis on dit c'est au bout. Alors, on est au bout, les hommes. On est au bout du bout. Il y en a qui sont au bout du bout du bout. Quand t'es rendu au bout du bout du bout, là, c'est tough. Tu vois pas grand-chose. Au bout du bout, t'as une chance. Au bout, là, tu commences. Puis quand il n'y a plus de bout, là, t'es correct.
Il y a sûrement un astrologue dans la salle qui...
Faut pas se prendre au sérieux dans les arts. Les arts, c'est le fun. C'est comme manger. La musique, la peinture. Mais on fait de ça des grands fétiches. Si le gars, lui, il a pas étudié à l'école, puis il a pas étudié Picasso, puis Rembrandt, puis quand il connaît pas toute la gang, il se sent insécure. Tu vas dans les musées, tu vois ça, ça sent l'insécurité dans les musées. Moi, j'ai fait exprès un jour, il y avait quelqu'un dans les musées, puis j'ai dit que c'était devant un portrait de Michel-Ange. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, cette cochonnerie-là? Le gars s'est retourné, voulait me tuer. Il était pris dans la forme que j'ai créée. C'est ça de l'influence. C'est son affaire. Les sacrées vaches. Avez-vous des vaches sacrées? Dans les arts, il y a des vaches sacrées, puis dans la musique, il y a des vaches sacrées, puis dans la nourriture, il y a des vaches sacrées, puis dans le végétarisme, il y a des vaches sacrées. Il y a des vaches sacrées de partout. On vit dans les champs. Surtout qu'on est des sacrés vaches.
Une belle question, justement. On doit faire ceci, on doit faire cela, mais comment préparer son jardin afin que la lumière l'atteigne pour faire pousser tous les fruits qui sont en nous.
Préparez-les quand ce sera prêt à descendre.
Votre signe zodiac, s'il vous plaît, date de naissance, etc. Ah, il y en a une que j'ai pas osé demander à Bernard encore. Il m'aurait dit, il dit ici, vous dites que...
Ils sont capables d'exécuter ces plans-là.
Qu'est-ce que le septième principe de la création?
Le septième principe de la création, c'est l'organisation moléculaire de l'énergie. Lorsqu'elle est véhiculée par l'espoir de la lumière, en relation avec le temps interne du feu cosmique des Alephs. Le feu cosmique des Alephs détermine la précision avec laquelle la lumière doit s'orienter dans les sphères. Et lorsque la lumière s'oriente dans les sphères d'une façon parfaite, parce qu'il n'y a pas dans les sphères d'ingérence, à ce moment-là, le septième principe de la création se manifeste et on a dans la création du monde l'explosion des galaxies.
Est-ce qu'on peut demander combien il y a de galaxies dans l'univers?
C'est pas important.
On peut toujours le demander. En même temps que commence la sixième race, n'y a-t-il pas aussi ce qu'on en appelle la NAC animale? Si oui, comment faire la différence?
La quoi?
La NAC, N-A-Q-E, animale. Malheureusement, j'en ai jamais entendu ce terme. J'aimerais que la personne qui l'a posé, lui... La vague? Ben oui, c'est ça. La vague animale.
Recommencez-nous la question.
Oui, je recommence. En même temps que commence la sixième race, mm-hmm. n'y a-t-il pas aussi ce que l'on appelle la vague animale?
La vague animale, dans quel sens? Oh, fais attention à ça.
Alors, pour les gens qui n'ont pas compris, là, c'est... L'humain qui devient la sixième race, en même temps, il y a des animaux qui évolueraient à la race.
Il faut faire attention. La conclusion ou la déduction de votre question, elle est intelligente. Parce qu'on passe toujours d'une chose à une autre chose, à une autre chose, à une autre chose. Du minéral à la plante à l'animal, blablabla. Mais ce qui est dangereux, c'est que lorsqu'on a tendance trop à voir une continuité dans les royaumes de l'évolution, on a tendance à substituer un royaume plus bas pour un royaume plus haut éventuellement. Et ce qui se produit au cours de l'évolution, c'est que lorsque l'homme aura engendré sur le plan matériel dans des conditions qui sont aujourd'hui invisibles, mais qui sont en rapport direct avec les forces de lumière en lui, des formes, les animaux qui seront créés à ces niveaux-là seront des animaux qui n'existent pas sur la planète aujourd'hui. Alors, les animaux qui existent sur la planète aujourd'hui feront partie de l'expérience globale de l'humanité ou de tous les cataclysmes que doit vivre la Terre, et il y aura des disparitions éventuelles, mais après l'engendrement de la conscience cosmique dans l'homme et la puissance créative de l'homme qui pourra créer des formes, parce que l'homme aura le pouvoir de créer des formes, lorsqu'il créera des formes nouvelles, à ce moment-là, les animaux seront nouveaux. Mais les animaux n'auront pas la conscience animale qu'ils avaient avant, ils auront une conscience semi-intelligente. Non, je crée des formes. Oui. Et les animaux auront une conscience semi-intelligente. Un peu, par exemple, comme le Yeti. Le Yeti a une conscience semi-intelligente.
Est-ce dangereux de s'adonner à l'étude des phosphènes telles que recommandées par le docteur Lefebvre? Un peu comme...
À l'étude des quoi?
Phosphènes.
Je ne peux pas porter de jugement sur les activités de ceux qui travaillent à la recherche de la compréhension des lois de la matière. Ça fait partie de votre propre expérience. Les gens doivent se fier à eux-mêmes, sentir par eux-mêmes. Sans ça, vous vous soumettez à mon jugement qui devient pour vous une opinion, et ça, c'est pas bon. C'est à vous de développer votre sensibilité et de voir s'il y a dans tel travail quelque chose qui vous rapporte quelque chose. D'ailleurs, tout est bon. Et ce que vous découvrez dans les œuvres d'un homme, ça fait partie de l'expérience de cet homme-là et le rapport qui existe sur le plan valoriel entre ce qu'il fait et ce dont vous voulez vous servir de son œuvre, ça fait partie de votre expérience. Je n'ai pas le droit, sur le plan public, sur le plan ouvert, de porter jugement d'une façon positive ou négative en relation avec les activités d'autres hommes qui tendent vers l'évolution et qui aident d'autres hommes.
On sait que ça ressemble beaucoup à l'étude de la religion de Zoroastre, observer la lumière du soleil, des étoiles. Puis ça se rapproche de justement l'âme qui retourne à la lumière, l'homme qui déjà prend des moyens matériels pour retourner à la lumière. Il n'y a pas de parallèle là.
Que vous fassiez n'importe quoi sur le plan de l'expérience humaine, sur le plan de la recherche, ça fait toujours partie de votre expérience humaine. Parce que dans le cadre de la conscience universelle, tout est bon. Tout sert. Si ça vous fait du bien de vous accrocher au mur le matin à 7h, entre 7h et 7h30, vous ne devez pas demander l'opinion à votre voisin. Ça fait partie de votre expérience et ça vous fait du bien. Alors, c'est bon. Plus tard, peut-être que vous n'allez pas vous prendre après du mur. Vous prendrez après d'autres choses. Mais éventuellement, vous ne vous prendrez après rien. Ça fait partie de votre expérience. Soyez assez personnel, assez autonome pour pouvoir au moins avoir le plaisir de participer à votre expérience par vous-même selon les critères que vous vous donnez. Vous ne pouvez pas toujours vous questionner, puis vous questionner, puis vous questionner. D'ailleurs, si vous faites quelque chose parce que vous avez des vibrations pour le faire, si vos vibrations ne sont pas ajustées, éventuellement, elles le seront au cours de l'expérience. Sans ça, vous allez toujours vous questionner, vous questionner, vous questionner. C'est malheureux toujours se questionner.
Que pensez-vous de la résurrection des corps lors du jugement dernier?
Tout bon.
Y aura-t-il effectivement une résurrection des corps?
Pas comme les gens le pensent. Les gens pensent que les morts vont sortir de la terre et vont se promener chez eux. La résurrection des corps, ça veut dire le développement du corps moronciel, la puissance du corps moronciel sur le corps matériel, l'élévation du corps matériel dans l'invisible. C'est ça la résurrection des corps. La conscience supramentale dans l'homme, l'invincibilité de l'esprit de l'homme et le contrôle total de l'homme sur la matière.
Et pourquoi l'appelle-t-on le jugement dernier?
Parce que dans le passé, quand on parlait aux hommes, il fallait toujours leur parler sur un plan émotif pour créer une certaine sensation religieuse dans la ferveur de leur esprit, afin de donner aux religions une puissance psychologique pour que les hommes puissent évoluer spirituellement et aussi développer en eux la crainte de l'inconnu. Ça fait partie des plans cosmiques sur l'homme. C'est pour ça que je vous dis, un jour, quand vous commencerez à être smart, tout ce qui est en haut, vous mettrez ça en bas. Quand vous pourrez tout renverser la patente, oh, ça c'est intéressant. Petite cigarette.
C'est une exportée de préférence. Sans filtre. C'est ça.
Ça c'est bien intéressant parce qu'ils me l'ont jamais dit. Ça c'est nouveau. C'est fun. Ils disent que quand l'homme va être centrique, réellement centrique, il aura la capacité de renverser la polarité de la connaissance par lui-même. Autrement dit, ce qui est en haut, ce qui était en haut pendant des siècles de temps, puis qui dominait l'homme, va être renversé complètement. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis ça va venir. D'ailleurs, la descente du supramental dans l'homme crée ça. Quand l'homme est central, centrique, et supramental, quand il est dans la conscience pure, toute connaissance, qu'elle vienne du plan humain ou qu'elle vienne du plan du monde des esprits, toute connaissance est sujette à la détermination de son esprit sur cette connaissance-là. C'est son esprit qui détermine la connaissance. Parce que son esprit est en lumière. Et à partir de ce moment-là, l'homme n'est plus capable de se servir de la connaissance pour lui-même. Et quand l'homme n'est plus capable de se servir de la connaissance pour lui-même, il n'a plus de besoin. Puis quand il n'a plus de besoin, il en est libre. Et quand il en est libre, il ne pense plus. Quand il n'en pense plus, il n'y a plus de mémoire. Quand il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus besoin de rien savoir. Quand il n'y a plus besoin de rien savoir, là, il est bien, il est au bout. Un petit peu en dehors du bout. Puis là, c'est l'infinité. C'est ça l'infinité de l'esprit. Sans son capote, tu ne peux pas penser à ça. Tu viens founer. Sur la Grande Bâtisse. Il y en a bien qui aimait ça me traiter à la Grande Bâtisse. Petite pilule par ici, petite pilule par là. Petite injection par ici, petite injection là. Il fait le possible. Mais l'homme doit pouvoir, ça c'est individuel, c'est pas collectif. L'homme doit pouvoir individuellement, dans sa propre centricité, pas égocentricité, dans sa propre centricité, à l'intérieur de la lumière en lui, pouvoir représenter sur le plan humain ou sur les autres plans tout ce qu'il veut, parce que tout ce qu'il veut fait partie de tout ce qu'il peut. Et tout ce qu'il peut fait partie de son pouvoir dans la lumière et avec la lumière. Il n'y a plus de limite. Donc c'est pour ça que je vous dis que la connaissance est une illusion. Parce qu'elle est de même. Quand elle sera de même, là, vous serez dans le savoir. Là, vous pourrez voir, à ce moment-là, les nuances de la connaissance. Ça devient évident. Mais il faut changer de lunettes. Ce qui est le plus intéressant pour nous autres, les hommes, c'est que on a devant nous, dans la nouvelle évolution, un pouvoir total sur l'esprit de la connaissance. Puis quand tu as un pouvoir total sur l'esprit de la connaissance, t'es bien. Parce que tu n'es plus lié à la forme de la connaissance. Fait que tu n'as pas besoin de rien savoir. Tu sais tout. Mais c'est pas parce que tu sais tout que tu comprends tout. Parce que tu n'as rien à comprendre. Les gens pensent que tout savoir, c'est tout avoir ça dans le magasin. Tout savoir, c'est avoir rien dans le magasin. C'est justement là, c'est l'opposé, c'est le contraire. Les gens pensent que tout ça ici, ton petit computer. C'est une fausse conception du savoir. Mais le savoir, c'est le vide parfait. C'est ça le savoir. Quand tu es vide, tu sais tout. Parce que tu es susceptible. L'énergie du savoir est susceptible de passer dans ton mental. Fait que tu sais tout. Tant qu'ils te parlent, eux autres, tu sais tout. Tu arrêtes de parler de l'air sans dessin. Mais ça ne te fait rien, parce que tu n'es pas attaché à ce que tu sais. Mais l'ego, lui, s'il s'attache à ce qu'il sait de temps en temps, eux autres, ils le coupent. À ce moment-là, il n'est pas content. Il est en maudit, comme ça. Puis ça fait partie de l'expérience avec le supramental, parce que ce n'est pas des cadeaux, eux autres. Vous autres, vous pensez, c'est des petits anges avec des grosses bédaines, des ongles roses. Il y a des petites nouvelles, vous autres. C'est pas des cadeaux. C'est des cadeaux, mais c'est pas des cadeaux. Ça devient des cadeaux quand on a passé à travers l'énergie. C'est ça, la fameuse initiation solaire, qui détruit les formes puis qui rend l'homme totalement libre et autonome. Il faut renverser l'esprit de la connaissance. Mais on ne peut pas renverser l'esprit de la connaissance tant qu'on n'est pas dans la connaissance de l'esprit. Puis quand tu es dans la connaissance de l'esprit, à ce moment-là, tu sors de l'imposition sur ton mental des formes dont se sert l'esprit pour activer en toi l'énergie de son esprit. Fait qu'à ce moment-là, ça devient de plus en plus facile de sortir de la connaissance de l'esprit pour entrer dans le savoir universel qui surplombe tous les cosmos et qui te permet de comprendre et de savoir tout quand tu n'as pas besoin, quand tu n'as pas besoin, tu dors. C'est instantané, la lumière. C'est instantané. Ça n'appartient pas à l'ego. Il faut que l'ego devienne un canal. Et quand il est un canal, là, il est bien. Mais il faut renverser l'esprit de la connaissance. C'est ça qui est le plus dur, d'ailleurs. C'est ça que les gens ne comprennent pas dans leur expérience avec ce que je dis souvent, parce que je renverse l'esprit de la connaissance. Fait que je dis des choses qui sont totalement à l'opposé de ce que les gens pensent. Depuis ce qui est établi depuis des siècles. Comment ça serait établi depuis 10 000 ans? Ça veut rien dire. Il n'y a rien là. Tu le changes après. Tu n'établis d'autres pour un autre 10 000 ans, alors ça, tu le changes encore. Non, les gens, ils veulent que ça reste éternellement, cette affaire-là. Il n'y a rien d'éternel. C'est l'éternité. Tout ce qui est à l'intérieur de ça change. Mais il faut qu'on soit flexible.
Où se situe l'intuition dans tout ce que vous nous dites?
L'intuition, c'est la manifestation à une petite échelle par le biais du plexus solaire du contact avec le supramental. L'intuition, c'est un petit peu du supramental. Ou des fois, c'est un petit peu du monde des esprits qui vous aide. Mais c'est pas assez, l'intuition. C'est une insulte. C'est pour ça que vous pouvez pas vous fier 100% à votre intuition. Pourquoi est-ce que les gens se fient pas à l'intuition? Parce que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Va aux courses. Check ton intuition aux courses, tu vois comment ça marche. Ça va marcher sur le premier cheval, ils vont te faire gagner 50$, puis ensuite, ils vont t'en faire perdre 200. Fait que les gens se fient pas à leur intuition. Puis je les comprends, puis c'est normal. Mais quand elle est là, l'intuition, il faut l'avoir, il faut la sentir, parce qu'elle sert toujours à quelque chose. Mais l'intuition, il faut que ça devienne plus grand, il faut que ça se mentalise, cette énergie-là. Il faut que tu en arrives à pouvoir parler avec eux autres dans ton mental. Comme on parle entre nous autres, il faut que tu puisses parler avec eux autres. Là, à ce moment-là, c'est comme du monde. Au lieu de passer par l'intuition, il faut passer par les rêves. S'ils veulent me parler, qu'ils me parlent comme du monde, qu'ils m'envoient pas des symboles qui se comprennent pas. Moi, je peux comprendre, mais je dis des symboles qui se comprennent pas dans les rêves. C'est une insulte à l'intelligence, rêver. Mais c'est important que les hommes rêvent. C'est bon que les hommes rêvent, parce que c'est déjà une façon pour eux autres de passer directement dans la conscience de l'ego, sans qu'il y ait interférence de l'ego. Fait que par les rêves, les gens peuvent apprendre beaucoup de choses, s'ils sont assez intuitifs des rêves, puis s'ils peuvent se fier à leur interprétation. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut que ça descende, ces affaires-là. Il faut que tu puisses communiquer avec eux autres comme on communique nous autres entre nous autres. Là, à ce moment-là, ben, tu commences à comprendre quelque chose. Mais dans ce passage-là, dans cette expérience-là, il y a un passage d'énergie, puis c'est là que l'ego, puis les émotions, puis la personnalité, puis notre sentimentalisme, puis notre attachement aux formes, à toutes les formes, devient pour nous autres un poids extraordinaire qu'il faut rejeter par-dessus nos épaules, puis ça, ça se fait petit à petit, ça se fait pas tout d'un coup. C'est pour ça que l'évolution d'un supramental, c'est une chose qui se fait graduellement, sans effort, au fur et à mesure que les gens commencent à être conscients de la vibration. Ça prend 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, il n'y a rien là. Mais au moins, ça ne vous rend pas grande bâtisse. Vous avez une chance d'aller chez Hilton. Le discernement, c'est très important. Le discernement, ça vient en relation avec ce contact constant dans notre esprit avec eux autres. Les autres, ils nous amènent au discernement. Mais il faut payer le prix pour. Parce qu'on n'a pas de discernement parce qu'on a des émotions. Ça ne veut pas dire de tuer nos émotions. Il faut y vivre nos émotions. Mais les vivre intelligemment. Faut pas que ça nous retarde, nos émotions. On est des hommes. C'est un bel être, là. Il y a des émotions, il y a un mental. On est bien organisé, on est des beaux chars. Mais il faut qu'on fonctionne comme du monde. On passe notre temps à mélanger l'eau avec le pétrole. Pour sauver du gaz. Ouais.
Est-ce que l'homme choisit son incarnation? Et si oui, pourquoi ne choisit-il pas de se réincarner dans un corps avec un ego qui laissera passer l'âme vers la lumière?
La façon possible. La façon possible. D'abord, c'est pas l'âme qui s'incarne, je l'ai déjà dit, ça. C'est une mauvaise interprétation de la réalité. C'est l'ego qui s'incarne. L'âme a conduit l'énergie. L'âme donne l'énergie au principe de l'âme. L'âme s'incarne pas. L'âme est instantanée sur tous les plans. À cause de sa lumière. Mais l'ego, lui, quand il vient ici, nous autres, sur le plan matériel, on voudrait être roi, puis on voudrait être en puissance, on voudrait avoir de l'argent, on voudrait que ça marche. Mais on réalise pas que sur le plan, les plans d'où on vient, dont les lois sont totalement différentes, quand on décide de venir dans la matière et dans la chair, on vient ici avec un but précis, qui est un but d'évolution. Alors, quand on rentre dans la matière, à ce moment-là, on oublie ce qu'on a décidé avant, il faut qu'on le subisse pendant X années. Jusqu'au moment où l'ego devient assez conscientisé pour ne plus subir la vie, pour la vivre, la vie, et non la subir. Mais pour qu'il la vive, il faut qu'il détruise les formes. Fait qu'à ce moment-là, si t'es né pour un petit pain, tu t'arranges pour te construire une boulangerie. Mais si tu penses que tu es né pour un petit pain puis tu vis à l'intérieur des femmes qui t'ont donné l'illusion de la vie pour un petit pain, ça c'est ton problème. On n'est pas né pour des petits pains, on est né dans des petits pains. Pas pareil. Faut en sortir du petit pain.
Il n'y a pas un homme qui n'a pas le pouvoir d'en arriver à vivre sa vie comme il est. De boire son lait comme ça, il plaît. Mais pour en arriver à boire notre lait comme ça nous plaît, il faut boire de l'air. Il faut arrêter de boire de la bière. Puis c'est là, que se fait le jeu et la pénétration du supramental dans l'homme. Les hommes qui sont prêts à subir, à vivre cette pénétration de l'intelligence universelle dans eux et de la vivre jusqu'au bout, éventuellement, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de leur évolution, à se faire leur évolution, puis ils en arrivent à la vivre, leur vie, d'une façon totalement maximale, totalement intégrale. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ça, c'est définitif qu'il y a un prix à payer. Si vous pensez que vous allez rentrer dans le supramental assis sur votre chameau, j'ai des petites nouvelles vous autres. Le supramental, quand ça pénètre, ça crée des chocs. Ça change les vibrations. Ça rend la vie extra-sensible. C'est là que les corps changent. Le mental s'ajuste, l'émotionnel s'ajuste. Il y en a pour qui c'est moins difficile que l'autre. Il y en a qui, une fois qu'ils ont saisi le jeu, là, ils apprennent à jouer à la game comme du monde. Mais il y en a qui ne sont pas capables de saisir le jeu. Ils stockent. Ce sont ces gens-là qui souffrent quand le supramental descend.
Ça peut être qu'ils souffrent beaucoup, trop.
Ça dépend des individus, ça dépend des formes en eux, ça dépend de leur état mental, de leur état émotionnel. Vous autres, on parle d'émotion, puis on parle de mentalité. L'émotion, c'est de l'énergie. Que vous appelez, que ce soit une bonne émotion ou une mauvaise émotion, que ce soit de la charité, de la jalousie ou de la possession, c'est de l'énergie. Fait qu'un gars qui est jaloux, c'est qu'il y a en lui une certaine énergie. Cette énergie-là, faut qu'elle soit transmutée. Faut qu'elle soit changée, cette énergie-là. S'il n'est pas changé, elle va toujours être là. Un gars qui est orgueilleux spirituellement, c'est une énergie là-dedans. Il y a une forme qui est puissante là-dedans. Faut qu'elle soit transmutée, cette énergie-là. Alors, on est dans des formes, puis tant qu'on n'a pas compris qu'on est dans des formes, quand on est sous l'illusion des formes parce que ça nous plaît ou que ça nous fait plaisir, à ce moment-là, c'est difficile. C'est ça qui bloque la pénétration du supramental. Vous êtes chanceux de ne pas rentrer dans le supramental par fusion. Quand je dis aux gens, je ne souhaite pas à personne la fusion, je sais ce que je veux dire. Que les gens en arrivent à la conscience. Ce qui est important, ce n'est pas la fusion, c'est la conscience. Quand des gens sont conscients, sont bien dans leur peau, la fusion, ça sert simplement à véhiculer de l'énergie d'une façon assez précise pour qu'elle fasse son travail. Sans ça, l'ego bloquerait. L'énergie ne passera pas comme elle doit passer. La fusion, c'est pas important. Elle vient, la fusion. Si vous êtes fusionné dans 50 ans ou dans d'autres temps, ça, c'est pas grave. Au moins, si vous êtes conscientisé que vous vivez votre vie comme vous voulez la vivre, à ce moment-là, vous allez être bien. Mais le conflit entre l'ego et le supramental, il est puissant. Je vous dis, le supramental est anti-ego. Puis eux autres, ils vont prendre, s'ils doivent prendre 20 ans, si ça fait partie de votre plan de vie, que la lumière doit descendre dans vos principes, dans vos corps, elle va prendre 20 ans. Comment même vous crieriez, puis vous iriez à la messe à tous les matins, ça ne va rien changer. Mais quand elle va rentrer. Puis elle va rentrer dans leur temps, eux autres, parce qu'eux autres connaissent votre force puis votre faiblesse. Sans ça, ils vous détruiraient. La lumière, ça détruit. Quand on n'est pas prêt à recevoir. Ça détruit, ça anéantit toute la lumière. C'est trop puissant. Fait que, il nous donne ça à petite dose. Mais même à petite dose, on trouve ça tough des fois. Pourquoi? Parce qu'on se prend au sérieux. On est des chameaux. On a deux bosses.
Ça se peut-tu des fois que la dose soit trop forte malgré tout?
Non. Et quand elle est trop forte, c'est parce qu'on pense qu'elle est trop forte, mais jamais trop forte parce que les autres connaissent nos limites. Nous autres, on ne connaît pas. Nous autres, on gueule contre eux autres. On dit, oh, c'est assez, là, prends un break, tu en haut, là. Eux autres, ils savent. Ils connaissent ta limite. Puis quand ta limite, quand tu es réellement arrivé à ta limite, tu sais, quand tu ne peux plus en prendre, tu n'es plus capable parce que tes corps sont saturés d'énergie, à ce moment-là, ils te lâchent, ils te laissent en paix. Là, tu es bien. Mais ils vont t'amener à ta limite jusqu'à temps qui détermine eux qu'est-ce que c'est ta limite. C'est pas l'ego. L'ego, ça chiale tout le temps. L'ego, on est toujours après ça. On veut être spirituel, puis on veut être conscient, puis on veut être dans la lumière. Puis aussitôt que la lumière s'allume un petit peu, on panique. C'est de même qu'on est. Les gens veulent être dans la lumière. puis ils veulent être, ils veulent dans le savoir, puis ils ont tous les désirs spirituels, là, tu jurerais que c'est des vrais mages. Moustou que ça tombe dans le fromage. Là, ils ont peur. C'est ça, la patente. Que tu aies tous les désirs spirituels que tu veux, si elle descend, cette affaire-là, checkez vos claques. Parce qu'elle va descendre dans son temps, pas dans votre temps, parce que vous voulez ça. Ils s'en foutent que vous vouliez ça. Les autres, ils savent quand elles vont venir, puis ils ont tout le temps devant eux autres. Mais il faut qu'on soit prêt. Puis quand on est prêt, ils savent qu'on est prêt, puis c'est là que ça commence. Il n'y a pas d'effort à du supplémentaire.
Ah. Oui, mais Bernard, avec tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous dis, il y a des gens qui réussissent à saisir des choses beaucoup. Beaucoup, peut-être trop plus vite que le supramental descend en eux. Provoque des fois des réactions de, je sais pas si c'est l'ego ou l'intellect, tout ce que tu voudras.
Il y a des gens qui saisissent des choses que je dis, mais ils comprennent mal. Ils interprètent par leur ego ce que je dis. Ils comprennent mal. Ça clique en eux autres, là, quelque part. Là. Mais leur ego rentre là-dedans, leur intellect rentre là-dedans, puis leur émotion rentre là-dedans, puis c'est là qui crée toutes sortes de situations. Pardon, j'ai mal à l'estomac. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent au sérieux. Faut pas se prendre au sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Mais nous autres, on se prend au sérieux parce qu'on est des chameaux. Fait qu'automatiquement, aussitôt qu'il se passe une situation, un éclaircissement, tu sais, un petit éclaircissement dans l'esprit, là, l'éclaircissement, il est gros de même. C'est rien, c'est rien que le début. Fait qu'imaginez-vous si vous donnez ça gros de même, vous seriez à grande bâtisse, avec moi. On peut pas voir et comprendre le supramental de nos yeux. Quand c'est le temps, il descend, puis il descend, puis il descend, puis il descend. Quand on est prêt, là, il descend. Là, ça rentre, ça rentre. Mais c'est pas de nos yeux, nous autres. Pas à l'intérieur du cadre qu'on voudrait. Ça se fait pas comme on veut. Ils sont anti-égaux. Comment même vous voulez spiritualiser au bout, puis être dans la lumière, puis être dans la chaleur? Ça, ça fait partie de votre ego. Mais qui vous met dans les lumières, vous allez en avoir des chaleurs. Inquiétez-vous pas. Au moins, vous allez être prêts. En attendant, buvez du coke.
Mais en attendant, Bernard, il est une forme maintenant.
Pardon?
Bernard est devenu une forme aussi.
Bah, je suis une forme certaine. Je suis une grosse forme. Une grosse forme.
Il y a moyen d'avoir plus gros.
Puis si vous accrochez à la forme, ça va vous déformer. Faut pas que les gens s'occupent de moi. Faut que les gens écoutent ce que je dis. Moi. Qu'est-ce que c'est, ça, moi? C'est quoi, ça, moi? Moi. Je. Voyons, rien là. Quand t'es prêt à penser, t'es un simple idiot. Mais t'es intelligent. Vous autres êtes intelligents, moi je suis idiot. Vous autres avez de la mémoire, moi je n'ai pas. Mais je suis plus fin que vous autres, parce que je pense pas. Fait que je mets jamais les pieds dans le plat. C'est ça le supramental. Lisez Aurobindo, il en parle. C'est un grand ça, Aurobindo. Puis lui, il a parlé en vision prophétique du supramental. Là, ça descend. Checkez vos claques. C'est comme quand on annonce la pluie ou la tempête, ça en vient, la tempête. D'ailleurs, les deux vont commencer. On a une vision des choses. Les choses se manifestent jamais selon la vision qu'on a de... Jamais. Quand le Nazaréen disait « Je viendrai comme un voleur », tu sais, il disait ça? « Je viendrai comme un voleur ». La bringue, ça n'existait pas dans ce temps-là. Tout ce qui est cosmique n'est jamais sous-tendu par les conditions de l'homme. L'homme doit absorber les conditions cosmiques et non l'envers. L'homme peut se conditionner spirituellement. Vous pouvez aimer telle école plutôt que telle école parce que dans l'école, vous tenez sa tête, dans l'autre école, vous tenez ses deux pieds. Enfin, vous prenez celle que vous plaît plus. Il y en a qui ont la tête forte, il y en a qui ont un pied fort. Ça dépend. Mais quand vous rentrez dans le supramental ou que le supramental rentre en vous, c'est plus vous qui runnez le show, c'est eux autres qui runnent le show.